France Culture. Daniel Poli, bonjour.
Bonjour.
Pour ce troisième temps de nos à voix nues, après le travail de terrain au Ghana et en Indonésie essentiellement, qu'on a abordé à l'épisode précédent, je vous propose de parler de ce qui vous meut le plus, c'est-à-dire le travail théorique, même si j'espère qu'on va suivre. Parce que c'est vrai qu'au contraire d'un certain nombre de vos collègues biologistes, vous, c'est moins l'amour de la nature que finalement l'analyse de données chiffrées, des grandes tendances et des écosystèmes.
C'est l'amour des concepts. C'est l'amour de la théorie.
D'où ça vous vient, ça ?
En fait, la science, c'est censé simplifier les choses, pas les complexifier. Il y a beaucoup de collègues qui croient que plus les choses qu'ils décrivent sont des exceptions, mieux c'est. Mais en fait, une bonne théorie scientifique, elle simplifie les choses parce qu'elle les explique. Donc, moi, c'est ça qui me plaît. Donc, pour la pêche, je pense que l'adaptation des théories de l'halieutique aux situations tropicales, c'était pas trop difficile, en fait. Il n'y a personne qui avait pensé.
Oui, c'est
Il y a aussi autre chose que j'ai développé à l'époque, c'est parce que l'absence de bouquins, l'absence de littérature des collègues dans les régions tropicales, j'ai créé une énorme base de données sur les poissons, avec bien sûr l'appui de beaucoup de collègues, qui s'appelle FishBase, qui a 35 000 espèces de poissons bien documentées. Il y a 500 espèces de plus à ajouter par année. Et il y a un groupe de à peu près 50 personnes qui travaillent à plein temps dessus maintenant. Donc, c'est devenu une grosse entreprise. Et ça fait partie de ce que j'ai créé ou aidé à créer parce que j'ai pu constater que l'halieutique ne marchait pas dans les pays du Sud parce qu'il manquait des informations et que les gens ne font... Ici, les experts qui venaient dans les régions tropicales, ils ne font que se plaindre de l'absence de données. Mais en fait, il faut s'adapter aux données qu'il y a. Et donc, on peut développer des méthodes qui utilisent les données qu'il y a. Et non pas se plaindre de l'absence de données qu'on n'a pas. Et donc, je me suis retrouvé, après avoir fait mon doctorat, aux Philippines. Pourquoi ? Parce que un centre venait d'être fondé par l'institution Rockefeller, de la fondation Rockefeller, et d'autres. Et ils cherchaient du personnel. Et la personne qui l'avait fondé avait visité en 76 ou 77 le sud-est asiatique. Et en Indonésie, il avait rencontré des gens qui lui parlaient de ce que j'avais fait. J'étais déjà parti, j'étais déjà en Allemagne. Et il m'a invité à venir 3 mois, à venir à Mani pour une consultance. Donc voilà, je me ramène, j'étais en train de faire mon doctorat, je me ramène dans son bureau en 78 et me dit « développer une théorie de la pêche tropicale ». Alors, j'ai une frousse incroyable, j'allais reprendre l'avion, et puis j'ai essayé, et en 3 mois j'ai développé un thème, une thématique, qui est devenue mon programme de recherche. Dès que j'ai fini un an plus tard, j'ai fini mon doctorat, il m'a engagé. Entre-temps, il était parti, mais son remplaçant m'a gardé. Et c'est là que j'ai fait une bonne partie de ma carrière.
Une bonne partie, vous y êtes resté 14 ans, 15
voilà.
ans, une quinzaine d'années, puisque vous en êtes parti en 1994. Alors ce centre de recherche aquatique, il a un nom, il s'appelle l'ICLARM, International Center for Living Aquatic Resources Management.
Maintenant, il s'appelle World Fish.
Et voilà,
et il a changé.
Malaisie. À l'époque, il s'appelait l'ICLARM, et maintenant, il s'appelle World Fish.
Alors, l'ICLARM était censé impulser la recherche sur l'aquaculture et sur les pêcheries, avec les mêmes idées que les grands centres sur le blé, le riz, qui avaient impulsé la révolution verte, the Green Revolution, qui a augmenté les prix énormément, excusez-moi, qui a les récoltes énormément. Mais bien sûr, on ne peut pas augmenter les prix des poissons sans gérer les pêcheries, mieux gérer les pêcheries. Donc l'affaire, c'était de de développer des méthodes de gestion de pêche qui fonctionneraient bien.
Dans un endroit, en l'occurrence, la San Miguel Bay, qui était à 200 km de Manille, et qui est une des zones les plus pauvres du pays, où l'activité de pêche était essentielle aux villageois. Donc on voit bien l'importance. Et là, à nouveau, on retrouve la dimension sociale chez vous.
C'était un laboratoire. Pour moi, j'ai pu voir ce qui se passe au niveau de la pêche, de l'océanographie physique, c'est-à-dire de l'eau, de la salinité de l'eau, les poissons, l'hydrologie, jusqu'aux affaires sociales. On a pu étudier cette pêcherie en grand détail pendant 2-3 ans, et on était observé par l'armée maoïste du coin qui nous a pas tués, qui nous a tolérés parce qu'on avait beaucoup de jeunes qui travaillaient pour nous, qui étaient de la région. Et donc, j'ai pu étudier c'était un laboratoire. Mais en fait, la plupart de mes activités, c'était surtout enseigner les méthodes que j'avais développées dans la zone intertropicale. Donc, j'ai travaillé beaucoup au Pérou, où il y avait cette pêcherie énorme, une énorme pêcherie, et j'ai publié deux bouquins sur... dirigé deux bouquins. Et j'ai enseigné en Océanie, en Afrique.
Oui, c'est ça. C'était la base était à Manille.
Mais j'étais toute la zone intertropicale. Alors, j'ai donné des cours pour compte de la FAO, la Food and Agriculture Organization of the United Nations, où j'enseignais les méthodes que j'avais développées. Avec des calculettes, avec des ordinateurs, avec des méthodes, faisais des conférences. Donc, j'ai connu toutes les pêcheries tropicales du monde. Je les connais bien. et beaucoup de collègues dans différentes régions du monde. Et en même temps, j'ai continué le développement de ces méthodes et leur application. Et certains labos, San Miguel Bay m'a servi de laboratoire, mais aussi les pêcheries du Pérou, sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé.
En particulier les anchois.
Sur les anchois, c'était la plus grande pêcherie du monde. Donc, il y avait 5 millions de tonnes par année qui pêchaient, plus encore. J'ai aussi appris l'espagnol, parce qu'il fallait bien parler espagnol aux gens. Et donc, ça a été une période avec une énorme série d'activités différentes. Si je retourne sur les années 80, c'est incroyable les activités que j'ai menées. C'est presque... Enfin, difficile à décrire, mais c'était surtout enseigner et surtout développer des méthodes, y compris donc FishBase, cette base de données.
C'est une sorte d'encyclopédie numérique, FishBase.
C'est une encyclopédie sur les poissons, et maintenant on a créé une autre base de données similaire pour les non-poissons qui vivent dans la mer. Et donc ça s'appelle Sea Life Base. Et ça, c'est un vrai succès parce que FishBase a des millions d'utilisateurs. Des millions. Pas seulement des scientifiques, des écoliers. Tout le monde utilise.
C'est la plus grande base de données au monde sur la biodiversité marine.
C'est ça.
Disons-le tout simplement.
Tous, oui. Et tout ça, ces publications, cet enseignement, les gens commencent à me connaître. À l'époque, j'avais une bonne relation avec la FAO, les collègues à Rome. J'avais une bonne relation parce que j'enseignais dans le contexte d'ateliers qu'ils organisaient. Et donc, les gens commençaient à citer mes travaux. Et donc, Elephant a beaucoup été cité, les méthodes pour estimer la mortalité naturelle a beaucoup été citée, et ainsi de suite. Et ensuite, les études sur différentes pêcheries dans différentes régions du monde.
Est-ce que vous diriez qu'il y a des points communs, puisque vous dites que Manille a été votre laboratoire à Saint-Miguel ensuite, et puis que vous avez essaimé un peu partout dans cette zone tropicale, les points communs entre ce que vous avez constaté au Pérou, par exemple, dans les pêcheries du Pérou, et ce que vous constatiez aux Philippines, ou ce que vous avez constaté à d'autres endroits en Afrique occidentale.
Il y avait des points communs, d'ailleurs, ça a été la cause de certaines disputes. Par exemple, aux Philippines, les stocks étaient déjà dégradés dans les années 80. Déjà, ils utilisaient de la dynamite dans les récifs coralliens, une misère incroyable parmi les pêcheurs. Et j'allais au Sénégal et j'avais des collègues orsomiens ou IRD qui voyaient une pêcherie en plein essor.
Qu'est-ce que c'est orsomien?
C'est un organisme français qui étudiait les s'appelle Orstom, qui a été fondé en 94 par Vichy, en fait. C'était pour soutenir les scientifiques français dans les colonies. Donc c'était plutôt colonialiste et ça a été remplacé par IRD,
l'Institut de Recherche et Développement.
Voilà. Donc il y avait une implantation très forte française au Sénégal et là je pouvais très bien voir que l'essor que prenait la pêcherie sénégalaise, ce ne serait qu'un passager. Parce que, bien sûr, si on augmente l'effort de pêche, il va tout s'écrouler. Et c'est d'ailleurs ça qui s'est passé. Mais à l'époque, je voyais très bien qu'il arriverait la même chose qu'aux Philippines, mais que ça serait un peu plus...
Décalé.
Alors que...
Pourquoi il allait arriver la même chose?
Parce qu'on a fait les mêmes bêtises.
Et c'était quoi ces bêtises?
C'est surpêche, la surpêche.
Déjà. Donc, vous parliez déjà de surpêche et d'effondrement des stocks.
Oh oui, ça a déjà commencé dans un territoire. Et donc, à l'époque, les collègues français ne voyaient pas, n'arrivaient pas à concevoir que cet essor, c'était passager et que plus tard, il y aurait la misère. Et maintenant, c'est maintenant qu'on la voit, la misère. Parce que la pêcherie est tellement, se porte tellement mal que les pêcheurs, le beau, l'ethnie spécialisée au Sénégal dans la pêche, ils n'ont rien à manger. Rien à manger et ils viennent ici. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis ici. Parce que l'Institut de Paris d'études avancées où je suis, ils m'ont invité pour un mois, c'est justement pour écrire un papier sur l'effet de la surpêche au Sénégal sur les migrations qui sortent de cette surpêche.
Et on est en 2025.
On est en 2025. Ça a pris longtemps, mais c'était inévitable. Donc, cette période, j'ai conçu pour la première fois la pêche internationale comme un système. Et comme le système climatique, par exemple, avant la Deuxième Guerre mondiale, on croyait que chaque pays avait son propre climat, son propre temps. Donc, quand on voulait prédire le temps, on consultait un almanach pour la France ou un almanach pour l'Allemagne. Un almanach qui vous disait il y aura ça, parce que en moyenne, il y a ça. Et depuis la Deuxième Guerre mondiale, on sait que le climat et le temps qu'il fait, est déterminé par un système global de vent, de transfert d'énergie de régions tropicales aux régions polaires. Et donc, c'est ça qu'on a maintenant. La pêche internationale, c'est un système global. Et c'est les bateaux qui vont d'un océan à l'autre, les bateaux des flottilles de haute mer. Et ces bateaux, ils entrent dans les zones exclusives économiques des pays, avec ou sans accord, avec ou sans loi, avec ou sans payer, et ils pêchent, ils rabotent les ressources mondiales, ils rabotent les ressources de chaque pays, et un pays qui ne laisserait pas la pêche, qui ne participe pas, il aurait des ressources très élevées, et donc il attirerait bien sûr tous les pirates du monde. Et donc on a une situation où il y a une moyenne qui se fait et qui s'abaisse graduellement. Une moyenne globale. Et donc, un bateau ici qui pêche en Méditerranée et ceux qui pêchent en mer du Nord, ils ont tous une mauvaise situation et ils ont tous besoin de subventions. Et donc, le système de pêche industrielle, il ne fonctionne que par les subventions. Des subventions de l'Europe, des subventions de la Chine, des subventions du Japon, c'est le même système partout.
Avec des conséquences environnementales, bien sûr, sur lesquelles nous reviendrons, mais aussi avec des conséquences économiques et sociales majeures. Parce que ce que vous disiez par rapport au Sénégal ou par rapport au Pérou ou par rapport aux Philippines, si je comprends bien, c'est que ces pays-là sont pillés de leurs ressources. Oui. C'est-à-dire que les poissons qu'on pêche là-bas, ils ne servent pas à nourrir les populations locales. Ils servent
bien
à nourrir
sûr.
Parfois même les animaux bien des sûr. Populations européennes. Ou
une autre chose généralisée que certains sociologues ou anthropologues n'ont pas noté, c'est que partout dans le monde entier, les pêcheurs artisans ne sont plus des pêcheurs traditionnels. La moitié d'entre eux, même plus souvent, sont des rescapés de l'agriculture. Parce que la révolution verte, ça a été un mécanisme pour les gens qui ont perdu leurs terres. Et les sécheresses qui ont lieu dans les années 70 et 80 ont aussi éliminé une partie des troupeaux des pastoralistes. Donc, en Afrique occidentale, Ghana et autres, il y a des pastoralistes qui ont trouvé, des milliers de pastoralistes qui ont dû se rabattre sur la pêche. Et dans tous les pays du monde, on trouve des montagnards qui travaillent sur les bateaux. Je me souviens, au Pérou, là, j'ai remarqué, on était dans une barque, et puis il y avait un marin avec des traits burinés, il est tout à fait, c'est l'idée qu'on se fait d'un marin, puis il savait pas faire des nœuds, mais qu'est-ce qu'il fout là? Il savait pas faire des nœuds. Et j'ai remarqué que c'était pas marin du tout, c'était un paysan des Andes qui était descendu parce qu'ils avaient plus de terre, parce qu'il peut plus vivre là, et il était devenu pêcheur. Et ça, c'est partout dans le monde. Partout dans le monde, les pêcheurs artisans sont complémentés ou remplacés par des gens qui n'ont pas de tradition de pêche.
Est-ce que ça, Daniel Poli, c'est propre à ce qu'on va appeler les pays du Sud, ou est-ce que ces problèmes-là, qui sont des problèmes économiques, sociaux, environnementaux, et donc politiques, ce sont des problèmes qu'on retrouve aussi au Nord, que c'est les mêmes, et que donc on peut les traiter mondialement?
L'addition de pêcheurs qui étaient auparavant des fermiers, on n'a pas ça en Europe. En fait, on perd des pêcheurs artisans parce qu'ils n'ont plus de ressources et ce sont les pêcheries industrielles qui les remplacent. Par contre, dans le tiers-monde, les pêcheurs artisans, leur nombre augmente, même si les ressources auxquelles ils peuvent accéder diminuent. Parce qu'il y a les pêcheries industrielles qui limitent les ressources. Mais donc, ça, c'est un autre truc que les sociologues et les anthropologues n'ont pas vu. Parce que chacun d'entre eux travaille sur un village et jamais ils comparent. Parce que l'étude qui leur permettra d'obtenir un doctorat ou une thèse de HDR, c'est toujours une thèse sur un village, sur une petite ethnie, et l'ethnie d'à côté, ils s'en occupent pas, et c'est exactement la même chose qui lui arrive. Et donc, on ne les consulte pas. Ils sont pas consultés pour la gestion des pêches, justement parce qu'ils sont que locaux. C'est toujours des visions locales qu'ils ont.
Alors que vous, justement, Daniel Poli, vous avez une vision macro, vous aviez une vision globale. Et d'ailleurs, je crois que le logiciel Ecopat...
Ah, mais ça, c'est une autre affaire.
Que vous avez mis au point est un logiciel qui, justement, permet de donner une dimension écosystémique à vos analyses.
Exactement. Alors, à l'époque, on aurait bien voulu... On cherchait une façon de tenir compte de plusieurs... espèces en même temps, de plusieurs groupes de poissons, plutôt que le monospécifique qui était typique pour l'Europe. Et il y a plusieurs ébauches qui avaient été faites, mais toutes étaient bien trop compliquées. Et un collègue américain, qui s'appelle Jeff Polovina, avait créé à Hawaï un modèle avec deux, trois équations très simples qu'il avait testé sur un groupe d'îles au nord d'Hawaï, ça s'appelle French Frigate School, il a dû abandonner le projet après l'avoir fini. Il a écrit un rapport, mais il avait créé un logiciel. Et je lui ai demandé s'il pouvait avoir le logiciel. Il m'a donné tout ce qu'il fallait, et je lui ai promis que j'allais rendre son logiciel très populaire. Et c'est en fait ce qui s'est passé. J'ai écrit 2-3 papiers. Ensuite, j'ai engagé, à l'époque, j'étais directeur à l'Éclam, donc où je travaillais. J'ai engagé un Danois qui en a fait sa carrière. On a fait un bouquin, on a écrit des tas de papiers, et c'est devenu une méthode standard. Donc, c'est une méthode que j'ai pas inventée, mais c'est une méthode que j'ai améliorée et que j'ai rendue populaire. Ecopath. C'est la méthode la plus utilisée dans le monde pour tenir compte de tous les facteurs dans un écosystème, tous les facteurs, toutes les bestioles qui se consomment, qui se bouffent les unes les autres.
Donc c'est utilisé par des chercheurs, par des gouvernements, par des ONG, et ça permet d'évaluer l'impact des politiques de pêche, de simuler des scénarios de conservation, d'étudier la résilience des écosystèmes et bien d'autres choses encore.
Bien sûr.
C'est ça.
Et c'est exactement ça. C'est donc ce collègue Polovina qui l'a inventé, mais c'est ce collègue danois et moi-même qui l'avons rendu très populaire. Ensuite, il y a eu un collègue canadien qui lui a donné des jambes, parce que la version que nous avions produite, c'est une version, disons, statique. il l'a rendu, il a fait un modèle dynamique qui fait des prédictions. Et je suis en train, par exemple, j'ai une étudiante qui est en train de l'adapter à Saint-Pierre-Miquelon, aux eaux d'un petit territoire français qui nous a financé cette étudiante pour qu'elle fasse un modèle écopath des eaux autour de Saint-Pierre-Miquelon.
Dernier projet de taille, de grande taille, parce que je ne sais pas si vous aimez les gros poissons, mais en tous les cas, vous aimez les grands ensembles, Daniel Poli. Et en 1994, vous quittez les Philippines pour rejoindre l'Université de la Colombie-Britannique à Vancouver, donc au Canada. Et vous décidez, 5 ans plus tard, de vous mettre à cartographier et à évaluer l'ensemble des pêcheries du monde afin de, d'en déduire l'impact sur l'état des océans. Ce projet, il est intitulé Sea Around Us, qui est un écho, la mer autour de nous, qui est un écho à l'une de vos sources d'inspiration. On va parler de la deuxième aussi, mais la première, c'est Rachel Carson, autrice du Printemps silencieux, grand livre d'alerte en 1962, mais aussi de Cette mer qui nous entoure en 1951. Donc Sea Around Us, la mer autour de nous, c'est aussi un hommage à l'écologue Rachel Carson. Et c'est ce projet donc que vous avez commencé de mener à bien en 1980.
Bien sûr. Ça a démarré par une organisation philanthropique, une fondation américaine qui s'appelle Pew, qui voulait savoir la santé des océans. Alors, ils ont fait venir une demi-douzaine de grands chercheurs, et moi j'étais aussi invité, et ces grands chercheurs ils ont disputé l'idée de la santé. On peut pas évaluer la santé. C'est pas mesurable. Alors, ils voulaient des sous, mais ils voulaient pas travailler sur la santé des océans. Et moi, je me suis arrangé pour être le dernier à parler. Et j'ai dit que, bien sûr, qu'on pourrait évaluer la santé. C'est simplement le départ de la situation normale. Comme pour la santé, la vôtre ou la mienne. Et que, il n'y aurait pas besoin de faire une énorme collecte de données nouvelles, parce que on a une méthode d'échantillonnage gigantesque qui a lieu tous les jours, et c'est la pêche. Et donc, j'ai gagné l'argument, et pour une quinzaine d'années, Pew m'a donné $1,200,000 par année. Et donc, j'ai pu créer une énorme base de données sur la base de les données de la FAO qui proviennent des différents pays. Chaque année, chaque pays envoie les prises qu'ils ont. Mais en plus, on ajoute, nous, toute la partie qui n'est pas couverte, c'est-à-dire les pêcheries récréationnelles, les pêcheries artisanales qui sont mal couvertes, les pêcheries illégales et toutes les pêcheries qui sont pas admises par les gouvernements. Nous, on les a parce qu'elles sont toutes visibles d'une façon ou d'une autre. On n'a pas une situation où on peut faire une pêche sans que ça se sache. Donc, on peut toujours utiliser des données autres que des données statistiques officielles pour obtenir une idée de ce qui se passe. Et ce site web, ce site donc sur Internet que nous avons créé, Sea Around Us, c'est devenu un point d'attache pour beaucoup de chercheurs dans des ONG, de scientifiques et autres.
Qui peuvent continuer de le nourrir?
Oui, ça nous coûte...
Est-ce que l'état de santé des océans évolue d'année en année? Vous avez commencé en 99, on est en 2025.
Ça va mal. Et en fait, c'est bizarre parce que imaginez un service de santé publique qui ne pourrait faire que des diagnoses, mais pas des traitements. Donc, ça, c'est l'halieutique. On a des diagnoses. Des diagnostics, excuse-moi. Et on sait comment on pourrait réparer les choses, on peut pas le faire. Et ça, c'est une tragédie, et c'est la même tragédie que pour le réchauffement climatique. On sait très bien comment sortir de cette ornière, mais on ne le fait pas.
Est-ce que, par exemple, la température de l'eau a une influence sur les poissons?
Elle a une influence très forte, et j'espère qu'on va pouvoir en parler, parce que c'était ma thèse de doctorat.
Absolument, on va en parler. Mais juste avant de terminer, je disais qu'il y avait deux sources d'inspiration théorique pour vous, historique même. Je parlais de Rachel Carson parce que son livre a été peut-être l'inspiration du titre de votre projet de cartographie. Mais la première dans l'histoire, pour vous, ça a été Charles Darwin.
Oui.
Charles Darwin, vous lui vouez une véritable passion.
Oui, c'était un bon scientifique. En plus, c'était un bon type. Et ça, c'est quelque chose de bizarre. Si vous étudiez les biographies qui ont été publiées jusqu'en 1980-90, aucune ne mentionne sa position par rapport à l'esclavage. Or, c'était, à l'époque, vraiment le sujet principal de l'Angleterre, de la politique anglaise et du colonialisme. C'était l'horreur de l'époque. Et lui et sa famille, toute sa famille, étaient des ennemis de l'esclavage et c'était des abolitionnistes connus et qui finançaient le mouvement abolitionniste qui d'ailleurs a triomphé en 1833. Ils ont aboli l'esclavage dans les colonies anglaises. Et c'est jamais mentionné. Donc, quand on étudie Darwin, on a un savant encyclopédique qui a révolutionné toute la biologie, mais aussi une personne aimable. Un père de famille raisonnable, un bon mari et une personne attrayante. Toutes ses lettres sont transparentes en plus, parce qu'il écrivait des milliers de lettres que les gens ont gardées et qui sont connues, et il en recevait aussi. Donc sa correspondance, c'est 14 000 lettres, 7 000 qu'il a écrites et 7 000 qu'il a reçues. Et c'est documenté et c'est absolument transparent. On sait ce qu'il fait chaque jour. Et ça, sans faille. On ne trouve pas d'horreur, de deuxième famille, de trucs qu'il aurait fait. Et c'est extraordinaire. C'est un bon type.
Est-ce qu'il a inspiré des travaux de ce qu'on a appelé plus tard l'océanographie?
Non. Je dois dire...
Disons, c'est quel domaine de la science qui vous a plu chez lui, en dehors de l'homme?
C'est l'évolution, bien sûr. Mais l'évolution, c'est tellement important qu'il n'a pas besoin d'aller dans des détails. Il est allé dans des détails de beaucoup d'animaux. Pour les poissons, pas tant que pour les orchides, ou pas tant que pour les pigeons, pas tant que... Mais assez pour que je fasse un bouquin. Donc, j'ai fait un bouquin qui a donc toute l'ichtyologie de Darwin. C'était 40 000 mots, à peu près. Et moi, j'ai ajouté 80 000. C'est-à-dire... Je présente ses positions, ce qu'il a dit, dans une autre police. C'est plutôt gris, les miens c'est noir. Donc on voit très bien dans le bouquin ce qu'il a écrit et ce que j'ai écrit. Et ensuite, je commente sur ce qu'il a écrit. C'est un bouquin organisé comme un dictionnaire, comme une encyclopédie, où on peut trouver tout ce qu'il y a sur les poissons de Darwin. Au début, c'était censé être, quand je demande, une petite épigraphe. Donc les poissons de Darwin, les pinsons de Darwin. Parce que les pinsons de Darwin, tout le monde connaît. Et d'ailleurs, ça marche aussi en anglais. Darwin's Fishes, Darwin's Finches.
Moi aussi, j'ai tenté un jeu de mots pour l'épisode suivant, Daniel Pauly, l'épisode 4, parce que je l'ai intitulé « Des pavés dans la mer ». Alors que normalement, en français, on dit « Des pavés dans la mare ».
Oui, oui.
Allez, on se retrouve demain. Merci beaucoup. C'était À Voix Nue avec Daniel Pauly, réalisation Véronique Samouilov, prise de son Yvan Charby, chargé de programme À Voix Nue Daphné Abgral, une série de Caroline Brou est disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.